affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, il va être question des couleurs. Peut-être pensez-vous que la radio n'est pas le média le plus approprié pour les évoquer, tant il est peu visuel, mais ce n'est pas si sûr, car comme va certainement nous l'expliquer notre invité au fil de cette émission, les couleurs sont avant tout des catégories mentales, si bien que lorsque nous les nommons, nous convoquons bien davantage que l'impression qu'elle produit sur notre rétine. Les couleurs, c'est ainsi, charrie aussi toute une culture amassée par sédiments au fil des siècles, mais aussi des souvenirs personnels, tout un ressenti qui rejaillit lorsque nous les observons. Et ces deux aspects se retrouvent dans l'ouvrage que nous allons évoquer. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio, une nouvelle fois, Michel Pastoureau, qui est ici, chez lui, que tous nos auditeurs apprécient particulièrement pour ses talents de conteur. Michel Pastoureau vient en effet de publier, cette fois non plus, des monographies qu'on apprécie tant sur les différentes couleurs, le rouge, le noir, le vert, et bientôt, je crois, le jaune qui sera mélangé avec l'or, comme il nous le disait dans une précédente émission. Mais un journal chromatique qui s'étend des années 2012 à 2016 et qui est titré « Une couleur ne vient jamais seule ». Michel Pastoureau, je précise, bonjour d'abord.
Bonjour.
Je précise, comme j'aurais dû le faire d'emblée, que vous êtes correspondant de l'Académie des inscriptions et belles lettres, historien, spécialiste des couleurs, des animaux, des images et des symboles, directeur d'études émérite à l'école pratique des hautes études, familier donc de Canal Academy et de ses auditeurs. Ma première question revient sur ce titre un peu énigmatique. Il faut peut-être préciser. Une couleur ne vient jamais seule. Est-ce que j'ai décrit parce qu'elle charrie beaucoup de choses ou autre chose encore qui vous est plus personnelle?
Oui, il s'agit, comme vous l'avez dit, d'un journal chromatique des 5 dernières années. Mais si j'avais appelé le livre « Journal chromatique », ça faisait un peu bizarre. Donc ça n'est que le sous-titre et j'ai choisi cette formule « Une couleur ne vient jamais seule ». C'est à la fois pour faire sentir que cet ouvrage parle de toutes les couleurs et en même temps souligner que une couleur toute seule n'a pas grand sens. Elle ne prend du sens que pour autant qu'elle est associée ou opposée à une ou plusieurs autres couleurs. Elles font système, en quelque sorte. Et la symbolique des couleurs a besoin de, sinon toutes les couleurs, plusieurs couleurs pour bien fonctionner.
Oui, c'est là que vous le dites, les couleurs servent à classer, à hiérarchiser, à distinguer, du coup à exclure, et que donc... Peut-être aussi leur charme, vous le dites à plusieurs reprises, en observant des paires de lunettes ou des polos, que tout de suite ça excite vos sens et votre souhait, par exemple, d'acquérir un polo de telle couleur, mais une fois qu'il est retiré de la pile, il a déjà perdu son charme.
Voilà, c'est qui est séduisant, c'est les couleurs entre elles, l'ensemble des couleurs, les nuanciers. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau qu'un nuancier. Et je prends l'exemple de chemises ou de polos empilés dans un magasin, formant une sorte d'arc-en-ciel. C'est extrêmement séduisant. Et puis si on retire un seul polo, il peut être très beau bien sûr, mais quand même, il y a une perte de séduction qui est incomparable. Et ça, on peut en faire l'expérience avec n'importe quoi, avec nos dossiers, nos sous-dossiers, un dossier tout seul, verdâtre, ça n'est pas très beau, mais empilé avec de dossiers rouges, verts, jaunes, bruns, gris, ça devient un arc-en-ciel et c'est particulièrement séduisant. Donc, d'où ce titre, une couleur ne vient jamais seule, c'est d'ailleurs le cas autour de nous, puisque mon ouvrage se propose de parler du spectacle de la rue, des pratiques vestimentaires, de la publicité, du vocabulaire des couleurs, des terrains de sport, bref, tout ce qui fait l'actualité de la couleur. à partir de notes que j'ai prises au cours de mes promenades, de mes réflexions, de ma fréquentation de lieux publics, le métro, une gare, un jardin public, un hôtel, un café. Je me déplace rarement sans un papier et un crayon, ne serait-ce que pour dessiner, mais aussi pour prendre des notes sur ce que je vois, ce que j'observe, ce que j'entends. Donc c'est un journal fait de notes que j'ai mises au propre et un peu réécrites, bien sûr, pour les transformer en un livre. Mais c'est vraiment un journal au sens propre. Au fil des semaines, depuis 2012 jusqu'à la fin de l'année 2016, et l'ouvrage vient de paraître en 2017.
Alors lorsqu'on parcourt ce journal et les réflexions que vous inspire le Monde, une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'est, enfin, c'est quand même incroyable. En fait, la plupart du temps aujourd'hui, on est confronté à une mise en chiffres du monde. Alors vous, c'est une mise en couleur du monde. C'est-à-dire que tous les phénomènes humains sont généralement analysés, sous-pesés selon l'angle de la quantité, et vous, c'est selon l'angle de la couleur, des teintes multiples qu'il peut prendre. Et finalement, cet angle d'attaque n'est pas moins pertinent pour le comprendre. Les couleurs nous aident à comprendre le monde.
Oui, en tout cas, l'historien que je suis a pris comme fil conducteur dans ses enquêtes et son parcours professionnel, mais aussi citoyen, la couleur. Elle est présente partout, elle concerne tout le monde, elle est à l'œuvre dans toutes sortes de domaines, ce qui fait la difficulté pour bien la saisir. Donc je crois que c'est un fil conducteur parmi d'autres, mais très très pertinent, très séduisant aussi. Et puis, je dois dire que depuis la petite enfance, je m'intéresse aux couleurs. J'ai probablement une certaine sensibilité un peu développée dans ce domaine, et puis maintenant un parcours de chercheur qui remonte assez loin, donc je suis chez moi avec les couleurs, même si elles résistent souvent à mes analyses, mais pas à mes observations, je pense.
C'est le moins qu'on puisse dire. Le livre est construit de la façon suivante, c'est-à-dire qu'une première observation, parfois incongrue d'ailleurs, ou étonnante ou amusante, vous permet ensuite des développements extrêmement fructueux. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait parler de couleurs à la radio, parce que finalement les couleurs sont des catégories mentales, comme vous l'avez déjà expliqué. Pouvez-vous nous expliquer cette différence entre couleurs réelles et couleurs nommées ?
Oui, c'est important d'ailleurs, et c'est la radio qui m'a fait comprendre que les couleurs pouvaient être des entités abstraites. Quand on parle couleurs à la radio, on ne montre rien, les auditeurs ne voient rien, et pourtant ça ne les gêne pas. Quand je fais un cours ou une conférence sans projeter quoi que ce soit sur les couleurs, ça ne gêne pas non plus mes auditeurs, mes élèves, mes étudiants, à condition bien sûr de parler des problèmes concernant couleurs et société, théorie de la couleur, etc. Si je parle des couleurs chez Rubens ou chez Matisse et que je ne montre absolument rien, c'est déjà un peu plus gênant. Encore que. Et c'est important parce que ça a des conséquences sur la définition de la couleur. Qu'est-ce que la couleur ? Si on ouvre un dictionnaire de langue, on va voir que les auteurs de dictionnaires ont un mal fou à dire de manière univoque ce qu'est la couleur. Soit on a un texte très très long, 20 ou 25 lignes, parce que les auteurs du dictionnaire ont voulu cerner tous les aspects, toutes les définitions de la couleur, qui est sensation, perception, lumière, matière, vocabulaire, oui, c'est tout ça à la fois, et autre chose en plus. Ou bien ils n'ont retenu qu'une seule des définitions parmi d'autres, alors on est un peu frustré. Et moi, j'ai dans l'idée que avant d'être sensation, perception, lumière, matière, la couleur, comme vous l'avez dit, c'est une catégorie pure, une catégorie abstraite, au sens presque aristotélicien, prête à l'emploi, prête à être remplie par les différentes sociétés qui en font usage. On comprend mieux, ce faisant, pourquoi la couleur peut être quelque chose d'abstrait, comment on peut en parler sans rien montrer. Donc Goethe, dans son Traité des couleurs, publié en 1810, pose cette question extrêmement pertinente. Est-ce qu'une robe rouge est encore rouge quand personne ne la regarde ? et il est hésitant sur la réponse, il pèse le pour et le contre, et il finit par dire « Non, je ne crois pas qu'elle soit encore rouge quand personne ne la regarde. » Quand j'étais plus jeune, je pensais comme Goethe, une couleur qui n'est pas regardée, au fond, c'est une couleur qui n'existe pas. Maintenant que je suis un chercheur avancé et un vieux monsieur, j'ai tendance à penser différemment. Et c'est justement les expériences que j'ai eues à la radio ou en faisant cours et conférences et en ne montrant pas de couleurs. Et je me suis aperçu qu'on peut très bien parler des couleurs et être compris sans rien montrer. Ça montre que la couleur, c'est plus qu'une perception ou une sensation, une lumière ou une matière. C'est tout ça, bien sûr, mais c'est... Avant, c'est autre chose, c'est une catégorie abstraite. Et dans mon travail d'historien, en ce moment, je suis en train d'étudier à partir de quand, en Europe occidentale en tout cas, à partir de quand la couleur, qui était inséparable de sa matérialité dans les sociétés anciennes, a pu devenir aussi quelque chose d'un peu abstrait. Ça se fait lentement entre... l'époque romaine et l'an 1000, en quelque sorte, et c'est le vocabulaire qui m'aide à passer de la couleur matière à la couleur abstraction. En latin classique, les termes de couleur sont presque toujours des adjectifs. En latin médiéval, ils peuvent être aussi des substantifs, et le fait qu'on puisse dire le rouge, le bleu, le vert, le jaune, comme ça, dans l'absolu, montre que la couleur s'est abstraite de son support et de sa matière.
Elle existe en tant que telle, alors ?
Elle existe en tant que telle, et c'est vrai, des couleurs, ce n'est pas vrai des nuances. Si je dis rouge, jaune, vert, bleu, tout le monde comprend à une représentation mentale. Si je dis vert bouteille, bleu des mers du sud, bleu pétrole, rouge grenat, ça ne représente pas exactement la même chose pour tout le monde. Et là, il faut montrer des taches de couleur. Hein. Donc c'est la différence entre couleur et nuance, voire nuance de nuance. La différence se situe du côté de cette capacité à être abstraite pour les couleurs de base, disons.
Alors dans ce distinguo entre les choses telles qu'elles sont et les choses telles qu'on les nomme, vous donnez un exemple qui est, je trouvais particulièrement drôlatique dans le premier chapitre, mais enfin c'est la première note du premier chapitre, où vous découvrez en Suisse un bac à ordures de couleur verte sur lequel est inscrite l'inscription « bac jaune ».
Oui, c'est en Bretagne que cette photo a été prise par une amie, un grand bac poubelle publique au bord de la route, vert, de ce vert poubelle qui est assez ancien maintenant dans nos pratiques contemporaines, mais avec une énorme étiquette dessus, bac jaune. Ça veut dire que ce bac n'était pas fait pour les ordures ordinaires, mais pour des ordures d'un certain type correspondant au bac jaune habituel, mais le bac était vert, donc il a fallu préciser qu'il devait être pensé et utilisé comme un bac jaune. Ça confirme que les termes de couleur sont des étiquettes et que l'écart peut être grand entre la couleur nommée et la couleur réelle.
Ce qui prouve bien que nous pouvons utiliser ces catégories sans pouvoir les montrer, que ça pourrait même, dans certaines circonstances, faciliter les choses. Les choses, si l'on disait bac jaune à la radio, il sera jaune et non pas vert.
Oui, un exemple quotidien qui nous concerne tous. Tous les jours, presque, nous disons vin blanc pour un vin qui n'a absolument rien de blanc, et ça ne nous gêne pas. Et nos grands-parents faisaient de même, et nos ancêtres de l'époque moderne, du Moyen-Âge et de l'Antiquité, maniaient également, pour certains produits en tout cas, les termes de couleur comme des étiquettes conventionnelles.
Vous en donnez un autre exemple, parce que nous en apprenons aussi un petit peu sur vous au fil de l'ouvrage, et notamment votre amour de la Bretagne, et celui de la contemplation de la mer.
Oui,
la mer, associée immédiatement au bleu, mais vous nous expliquez, et de fait, on s'en rend compte, qu'elle est rarement bleue, surtout en Bretagne.
Voilà, oui, c'est un journal, donc c'est un ouvrage un peu plus débridé et peut-être un peu plus narcissique que mes autres ouvrages. Je ne peux pas en être autrement dans un journal. J'arrive à un âge où on aime se raconter. Donc, en effet, pour chaque chapitre ou sous-chapitre, je pars d'une observation ou d'une petite aventure personnelle et je prends un peu de hauteur pour tenir des propos d'historien ou de sociologue, sans donner trop de leçons, bien sûr. Et le spectacle de la mer, c'est un spectacle toujours changeant, je ne suis pas le premier à le dire, mais qui me plaît toujours autant. Sur la côte nord de la Bretagne, il m'arrive souvent de m'asseoir sur un banc et de regarder la mer assez longuement, d'essayer de nommer ou d'arrêter ses couleurs. C'est un exercice impossible. La mer, en tout cas les mers que je connaisse, sont entre bleu, vert et gris le plus souvent, parfois un peu noir, un peu brune, parfois elles prennent d'autres teintes selon l'heure du jour, selon la position du soleil ou de la lune. Bref, la mer est de toutes les couleurs, et quand on lit des auteurs anciens, on s'aperçoit qu'elle est rarement bleue. Sous la plume ou le calame de ses auteurs, Homère bien sûr, qu'on cite souvent, qui donne à la mer grecque des coloration extrêmement variée, mais jamais le bleu. Mais on peut prendre d'autres auteurs plus en aval dans le temps, ou bien des représentations de la mer dans des images. La couleur bleue n'est pas la couleur dominante. D'ailleurs, sur les premiers portulans, à la fin du Moyen-Âge, la mer est verte. Elle n'est pas bleue, elle ne deviendra bleue progressivement qu'au début de l'époque moderne, sur les derniers portulans et les premières cartes marines.
Qui, nous dites-vous, ont joué un grand rôle dans la convention qui consiste à dire que la mer, voire l'eau, est bleue.
Voilà, pour les hommes et les femmes du Moyen-Âge, l'eau est verte conventionnellement, mais peut-être aussi dans leur perception. Et pour nous, aujourd'hui, l'eau est bleue. Le passage se fait lentement entre le XIVe et le XVIIe siècle. Et la cartographie a sans doute joué un rôle important dans cette mutation. À partir du moment où on s'est mis à représenter sur la même carte à la fois l'eau, la mer, les rivières, les étangs, les lacs, et puis les forêts, tout était vert. Il a fallu conventionnellement changer une des deux couleurs, une des deux catégories. Et donc, par convention, l'eau est devenue bleue et l'est restée. Dans nos salles de bain, le robinet d'eau froide a une pastille bleue, mais ça aurait pu être une pastille verte, d'autant que le bleu associé au froid, là encore, c'est assez récent pour un certain nombre d'auteurs médiévaux et encore modernes. Le bleu est une couleur chaude, au même titre que le rouge, et le jaune est une couleur froide, donc un grand écart par rapport à nos pratiques et nos savoirs, qui confirme que là encore, on a affaire à des conventions, des étiquettes qui varient dans le temps et qui varient aussi dans l'espace. Il y a d'autres sociétés où le bleu est chaud et le jaune froid.
On peut faire la même remarque, vous faites la même remarque à propos du vert, aujourd'hui universel, non, j'allais dire universellement voyé, je tombe dans le panneau, aujourd'hui dans nos sociétés considérées comme la couleur de la, par excellence de la nature, mais qui n'est pas perçue de la même façon dans d'autres espaces, et qui n'était pas envisagée de la sorte par le passé non plus.
Voilà, pendant des siècles, des millénaires, la nature ne se définit pas par rapport à la végétation. Elle se définit par rapport aux quatre éléments. L'eau, l'air, la terre et le feu. L'eau, l'air, la terre et le feu. Et elle a donc quatre couleurs. Et ça n'est qu'à partir de l'époque romantique que vraiment on fait une synonymie entre nature et végétation. La végétation sous nos latitudes étant verte, peu à peu la nature, mais il faut attendre la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, peu à peu la nature devient de couleur verte. Pour nous c'est une évidence, mais donc c'est une évidence récente en Occident, et puis dans d'autres sociétés ça ne fonctionne pas comme ça, ça dépend également de la latitude, ça dépend de la couverture végétale, ça dépend du climat, de la lumière, et de cette idée qu'on peut avoir de la nature. Toutes les sociétés ne définissent pas la nature par rapport au monde végétal, tant s'en faut.
À plusieurs reprises, on a l'impression que ça vous agace un peu la façon dont certains groupes sociaux ou politiques ou idéologiques préemptent telle ou telle couleur.
Oui, j'ai dans l'idée que la couleur, ça appartient à tout le monde. Donc toute confiscation de la couleur par une firme commerciale, par une idéologie, par un parti politique, ça m'agace bien sûr dans ce livre. On trouvera un certain nombre d'irritations, peut-être que c'est l'homme âgé que je suis devenu qui commence à ronchonner, mais quand même, la couleur, oui vraiment c'est un bien commun. Ça me choque que telle ou telle firme décrète que telle nuance de couleur, définie par rapport à un nuancier international, deviendra son logo et interdit à qui que ce soit d'en faire usage. C'est à la fois malhonnête, immoral, absurde aussi, parce que une nuance très précise de couleur ne sera pas vue de la même façon selon l'heure de la journée, selon l'éclairage, selon la culture de celui qui regarde. C'est un exercice complètement vain. Et puis du point de vue idéologique, j'ai vécu quand j'étais adolescent, jeune homme, l'idée que quand on disait qu'on aimait le rouge, on était tout de suite taxé de communisme, on était un communiste. Cette idée est en train de disparaître, mais maintenant c'est l'écologie politique qui l'a remplacée. Si je dis j'aime le vert, tout de suite on pense que ah, Pastoureau, c'est un défenseur de l'environnement, c'est un militant écologiste. Ce n'est pas tout à fait le cas, je n'ai rien contre l'écologie, mais j'aime en effet beaucoup la couleur verte depuis que je suis tout petit garçon. C'est pour d'autres raisons, d'ailleurs, que j'aurais bien du mal à cerner. Mais donc, il y a là comme une confiscation des principales couleurs à des fins idéologiques ou politiques qui m'agacent. Et comme la palette possible pour ce faire n'est pas très étendue, évidemment, ça fonctionne d'autant mieux.
Est-ce que finalement, c'est pas aussi un enrichissement du sens des choses, une perpétuation des anciens usages, finalement, dans l'héraldique, j'imagine, telle ou telle couleur est investie d'un sens, représente une famille, une dynastie. Aujourd'hui, dans un monde républicain, démocratique, que tel ou tel parti s'empare de telle couleur pour des raisons signalétiques, est-ce que c'est si grave, finalement ?
Oui et non, c'est vrai que ça remonte très loin, et l'utilisation politique des couleurs, on en trouve trace déjà dans la Rome antique, à Byzance avec l'opposition du vert et du bleu, dans la Florence du XIVe siècle, chez les Guelfes blancs ou noirs, et puis plus on avance dans le temps, plus on va trouver de témoignages, la Révolution française et ses lendemains mettant un coup d'accélération à cette utilisation politique des couleurs, mais dans les sociétés anciennes, ça n'est pas envahissant au Moyen-Âge ou à la fin du Moyen-Âge. Quand on voit du bleu, on ne pense pas tout de suite à la couleur des Capétiens ou des Valois, ça va pas jusque-là. Aujourd'hui, c'est quand même confiscatoire. Rouge, tu aimes le rouge, tu t'habilles en rouge, mais t'es un communiste, j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, c'est le vert qui prend ce rôle.
Oui, puis vous racontez une anecdote absolument savoureuse sur l'un de vos collègues universitaires et syndicalistes qui vous reproche de porter un pull de classe dominante parce qu'il est bleu marine, si je ne me trompe pas.
Voilà, ce collègue, c'est aussi un ami de longue date. Nous avons été étudiés ensemble. Lui, il était gauchiste quand il était jeune. Il est devenu bourdeusien, toujours très très à gauche. Et un jour, dans la cour de la Sorbonne, il faisait chaud. J'avais enlevé mon pullover, je l'avais mis sur mes épaules, un pull bleu marine. Et il m'a dit que j'étais un grand bourgeois parce que je portais un pull bleu marine. Ça m'a mis en colère, comme je lui parlais franchement, et lui me parlait franchement aussi, parce qu'on se connaissait très bien. Je lui expliquais que si je m'habillais en bleu marine, c'est parce que je pensais que cela amincissait ma silhouette, qui en avait besoin, et il m'a répondu « Mais tu n'as qu'à t'habiller en noir, ce n'est pas une couleur de classe. » Et c'était assez savoureux, parce que en mai 68, moi j'avais 20 ans, j'ai vu dans les défilés et dans les manifestations, le drapeau rouge de la gauche et de l'extrême gauche débordé sur sa propre gauche par le drapeau noir. Et cet ami collègue était particulièrement, non seulement mécontent, mais inquiet de ce débordement par le drapeau noir sur le côté de l'extrême gauche. Et puis, je m'étais justifié, pourquoi le bleu marine ? Pour amincir ma silhouette. Et à bout d'arguments, il m'a dit « Oui, pull bleu marine, d'accord, mais tu le portes sur tes épaules négligemment. » Et alors ça, négligemment, pour lui, c'était un adverbe de classe. Jamais un ouvrier n'aurait fait ça, m'a-t-il dit. Voilà, alors moi, c'est moi qui étais là à bout d'arguments. Oui, je porte mon pull bleu marine négligemment sur mes épaules quand il fait très chaud dans la cour de la Sorbonne.
Encore était-il bienveillant, car bleu marine, aujourd'hui, ça peut encore prendre une nouvelle connotation, puisqu'on en est au chapitre des préemptions des couleurs par le parti politique. Ça s'est encore récemment enrichi. D'ailleurs, c'est un peu plus neuf, parce que là, il y a l'adjectif. Les adjectifs ont des importances aussi, d'ailleurs. Dans les...
Oui, pour décliner la couleur. Alors là, c'est le cas de la présidente du Front National, Marine Le Pen, qui a tendance à attirer à elle la couleur bleu marine, simplement à cause de son prénom. C'est en effet encore une pratique plus ou moins confiscatoire, malgré elle. Hein, Marine Le Pen n'y est pour rien, mais la presse, l'ambiance actuelle fait que cette couleur parfaitement neutre, le bleu marine, ne l'est plus du tout et tire idéologiquement vers la droite, vers l'extrême droite. Ça ne m'empêche pas de m'habiller en bleu marine et de continuer à le faire, parce que, je le répète, les couleurs sombres, le bleu marine, le gris foncé et le noir, amincissent la silhouette.
Mais au-delà de ça, j'ai appris avec un peu, non pas de sidération, mais d'étonnement, que vous aviez un goût de prédilection. Pour le vert, ça nous le savions, mais pour les tenues vestimentaires, plutôt sobres et non tapageuses. À plusieurs reprises, vous vous emportez, vous avez dit que dans votre livre, il y avait des emportements. Il y a beaucoup d'emportements contre un monde que vous jugez trop criard, tapageur. Il y a des diatribes contre les horribles années 70 et les tenues bariolées. J'avais presque envie de vous demander d'où cela vient-il, puisque la couleur ne vient jamais seule. D'où vient cet agacement ?
Oui, je suis on pourrait dire un puritain de la couleur. Peut-être que je suis trop praticien, trop observateur, trop spécialiste des couleurs, et que j'en suis venu à l'idée que la couleur est une chose trop belle pour que l'on en abuse. Donc j'ai des pratiques, disons, protestantes de la palette, et spécialement de la palette vestimentaire. Les grands réformateurs protestants du XVIe siècle moralisent beaucoup les couleurs et distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes. Non seulement pour un bon chrétien, mais également pour un bon citoyen, Calvin à Genève, par exemple. Et les couleurs honnêtes, ce sont le blanc, le noir, le gris, le brun et le bleu. Et les couleurs déshonnêtes, ce sont celles qui se voient trop, le rouge, le vert et le jaune, le rouge étant en plus la couleur des papistes, et soit isolément, soit pire encore en association, ce sont des couleurs à rejeter. Et qu'on le veuille ou non, on vit encore un peu là-dessus dans nos sociétés européennes contemporaines, parce que la contre-réforme catholique, qui sur de nombreux points s'est opposée aux valeurs protestantes, sur ce plan-là, le vêtement pour le commun des mortels et la vie quotidienne, ma foi, les morales de la couleur, ça n'est pas si mal. Et donc, quand on regarde autour de nous nos contemporains, et pour moi, le métro est un lieu exemplaire pour regarder comment le commun des mortels porte ses vêtements et les couleurs des vêtements, on a affaire ici aux vêtements vraiment portés, pas aux vêtements des magazines de mode, on s'aperçoit qu'en effet, les couleurs sombres et retenues sont dominante. Et ma foi, je trouve ça très bien. Ça permet de temps en temps de faire des écarts. Il faut des soupapes, bien sûr, et dans certaines circonstances, à certains moments, choisir une couleur un peu plus violente. Mais si tout le monde était en couleurs violentes, bariolées, qui se remarquent, évidemment, ce seront les couleurs sombres et retenues qui deviendraient des valeurs dans lesquelles chacun tenterait de s'investir. C'est un problème de balancier, des problèmes d'écart et d'écart par rapport à l'écart. Bien connu tout ça des sociologues. On a quand même un classement social par les couleurs que nous portons, parfois malgré nous. On a l'impression que l'uni, aujourd'hui, c'est le chic ou c'est le privilégié, et le bariolé, les grands motifs, c'est réservé aux classes plus populaires. Il n'y a qu'à observer la sortie d'une école dans un quartier favorisé. On verra que les jeunes enfants portent des couleurs unies, parfois un peu vives, mais unies, et ne faisant pas du tout polychrome. Et quand on regarde la même sortie d'une école dans un quartier plutôt défavorisé, là, le bariolage est beaucoup plus grand. C'est vrai, en tout cas, des grandes villes en Europe occidentale. Malgré nous, il y a un classement social par la couleur, et on n'y échappe pas. Hein. La première fonction, on l'a rappelé en commençant tout à l'heure, la première fonction de la couleur, ça n'est pas la seule, mais c'est la première, c'est de classer, de hiérarchiser, d'associer, d'opposer, par le vêtement bien sûr, mais aussi les objets, les papiers, nos dossiers et nos sous-dossiers nous aident à classer le désordre de notre bureau.
Peut-être différent, c'est qu'auparavant, les choses étaient, semble-t-il, en tout cas, c'est la perception qu'on peut en avoir, plus codifiées. C'est-à-dire que le code était partagé, connu de tous, alors qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu à notre insu.
Oui, vous avez raison. En plus, aujourd'hui, il n'y a plus de grandes catégories sociales. On a l'impression que parfois, tout fonctionne par milieu et par micro-milieu même. Telle couleur ou association de couleurs qui sera très chic ici sera plouc ailleurs. Il faudra juste faire quelques mètres pour se déplacer. En outre, il faut bien comprendre que nous vivons en société, donc nos choix, nos goûts passe toujours par le regard des autres. Même comme nous, quand nous fuyons le regard des autres, c'est montrer que nous sommes encore plus influencés par le regard des autres que le commun des mortels, puisque nous cherchons à fuir ce regard des autres. C'est donc qu'il nous influence considérablement. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que, pour le vêtement, quand nous achetons une veste ou un pantalon ou un pull, nous sommes obligés de nous adapter à ce que l'on nous propose. J'entre dans une boutique, je veux une veste verte, il n'y a pas de veste verte, je ressors avec une veste bleue. Ça veut dire que je n'ai pas pu choisir ce qui m'aurait plu le plus, j'ai choisi ce qui me déplaisait le moins par rapport à ce qu'on m'avait proposé, c'est-à-dire un choix par soustraction. Et nos comportements de consommateurs sont constamment comme cela. Ça explique que, contrairement à ce que pensent certains sociologues et psychologues, nous ne portons pas sur nous des couleurs que nous aimons. Nous portons sur nous des couleurs que nous ne détestons pas. Ce n'est pas du tout la même chose.
Oui, vous le dites aussi à propos des automobiles. Vous n'aimez pas beaucoup les automobiles d'ailleurs. Vous n'aimez pas les automobiles, vous n'aimez pas la vitesse, vous n'aimez pas les aéroports.
Non, vous m'avez très bien lu. Je n'aime pas les automobiles. Non, c'est vrai, je n'ai pas que je déteste les automobiles, mais je n'ai jamais été un passionné d'automobile. Et pour le jeune garçon que j'étais, les petites autos, ça n'était pas du tout mon jouet préféré. J'ai été longtemps conducteur. Maintenant, j'ai quelques problèmes de vue. Je laisse ma femme conduire la voiture le plus souvent. Mais je suis un grand observateur des carrosseries et des couleurs de carrosserie, ce qui fait que je m'attarde sur les parkings, qui sont des lieux abominables, il ne faut pas le cacher, mais pour l'observateur des couleurs, ce sont des lieux fructueux pour faire une récolte d'informations. Je n'aime pas la vitesse non plus, je trouve que tout pourrait aller beaucoup plus lentement dans le monde contemporain, il suffirait d'un peu de volonté collective. On en parle d'ailleurs en ce moment, est-ce que le gouvernement va limiter ou non sur les routes à 80 au lieu de 90 km/h la vitesse? À mon avis 60 suffirait, mais bon, je suis un vieux monsieur ringard. En tout cas, les carrosseries de voitures ont leur histoire, j'ai essayé d'en retracer les grandes lignes, c'est assez faisable jusqu'aux années 2000 à peu près, puis la diversité des palettes, des pigments utilisés, l'arrivée de teintes métallisées, sous-métallisées, vernis, revernis, ça complique la nomination de la, non pas de la couleur, mais de la nuance, de nuances de couleur que l'on voit sur la carrosserie. Je me suis livré à des travaux pratiques avec quelques-uns de mes étudiants sur le parking de l'institution qui me donne l'hospitalité pour mon séminaire, l'École nationale supérieure de chimie, à qui je rends grâce. Eh bien, nous sommes tombés devant quelques carrosseries de voitures où aucun d'entre nous ne pouvait nommer, même avec une certaine fantaisie, la coloration précise. Ça a été un jeu, bien sûr, ludique pour ces carrosseries métallisées qui sont entre le marron glacé, le champagne rosé, tout ça un petit peu avarié par l'usure du temps, plus la saleté qui s'est déposée sur la voiture. Mais nous n'étions pas les premiers à le faire. Hein. Au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'est un grand siècle des couleurs, on s'est amusé, devant les nuances nouvelles, surtout textiles, à créer des formulations qui sont extrêmement savoureuses et qui n'ont rien à envier à celles que nous utilisons aujourd'hui dans nos nuanciers de carrosserie automobile, de sous-vêtements, de rouge à lèvres, etc.
Il y a des passages extrêmement drôles où, d'une part, vous rappelez que dans des inventaires, je pense, à la fin du Moyen-Âge, début de Renaissance, c'est ça, le lexique ne correspondant pas toujours aux couleurs des objets qui figuraient dans l'inventaire, la personne qui en était chargée finissait par simplement noter « étrange couleur », c'est ça ?
Oui, ça j'ai trouvé plusieurs fois dans des documents des XIVe et XVe siècles, notamment dans des inventaires notariés, de garde-robe, des inventaires après décès. Les notaires, cherchant la précision, n'ont pas dans leur outil lexical, que ce soit en latin ou en langue vernaculaire, les mots qu'il faut pour décrire la couleur. Peut-être est-ce simplement dû au fait que nos lexiques des couleurs se sont construits avant le spectre, donc il y a toujours un écart entre le vocabulaire et la couleur réelle des êtres et des choses. Et de Guerlas, ne trouvant pas les bons mots, notait « étrange couleur »,« couleur étrange ». C'est une expression qui revient assez souvent autour des années 1500.
Mais qui est un signe absolument charmant d'humilité aussi, car aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, c'est l'exubérance. Vous donnez des exemples complètement sidérants de gris mi-souris, qui n'est pas une demi-souris, hein, c'est pas un demi-gris-souris, c'est le mi-souris comme l'État américain, et bien d'autres, tous plus extravagants les uns que les autres. Alors là, c'est l'inverse. On donne, j'allais dire, une coloration, une couleur, avec l'aide du vocabulaire marketing. Ça aussi, ça vous agace, j'ai l'impression.
C'est tout à l'honneur des notaires médiévaux, qui sont des gens admirables, honnêtes le plus souvent, qui cherchent à être précis, et quand ils n'y parviennent pas, ils l'avouent, et ils emploient cette expression « étrange couleur ». Jamais on ne ferait cela aujourd'hui. Plutôt que d'avouer qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas, on invente n'importe quoi, et on fait une espèce de bouillabaisse de la palette lexicale, parfois complètement déconnectée de la coloration réelle. Dans les nuanciers pour les choix de rouge à lèvres, par exemple, on est très très loin des teintes et on a des colorations qui sont formulées, non pas ce soir, chagrin d'amour, on trouve la même chose pour les bas et les collants, et le plus merveilleux que j'ai trouvé, pour un gris un peu cendré, pour des collants, entre le peut-être et le pas tout à fait, c'est tout un programme.
C'est magnifique, mais j'aime beaucoup aussi quand même le rose pink.
Oui, ça je l'ai trouvé à propos de chemises polo dans un catalogue de vente où pourtant les colorations étaient assez neutres, bleu marine, vert clair, et puis pour le rose, rose pink. Alors là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Le mot rose en français, dans un sens chromatique, n'apparaît vraiment qu'au XVIIIe siècle. Dans la langue anglaise, le mot pink aussi, à la fin du siècle. Il est d'ailleurs d'étymologie complètement obscure. Mais qu'est-ce que pouvait être un rose pink? C'est une sorte de tautologie. Eh bien, une amie linguiste et angliciste m'a expliqué qu'en fait, en anglais, à côté de pink, qui est le terme courant pour dire rose, il y a aussi le je ne sais pas comment il faut dire, le franglais rose, qui est parfois utilisé pour ce qu'on appellerait nous en français le rose layette, et le pink étant un rose plus flashy, dirait la langue anglaise, pour spécialement le vêtement et l'étoffe.
Ce qui aggrave son cas, finalement.
Oui, alors on pourrait dire pareillement un vert green, un bleu blue, un rouge red, on trouve de tout hein, dans les tentatives pour nommer et décrire les couleurs. Dans des catalogues de vente de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, une expression très souvent employée pour étoffes et vêtements dans la gamme des rouges, c'est le rouge mode. Qu'est-ce que ça peut être dans les années 1900 qu'un rouge mode ? C'est un rouge à la mode, mais pour le lecteur et l'historien d'aujourd'hui, ça laisse bien des perplexités.
Non, puisque dans ces descriptions, je comprends que ça suscite votre agacement par le côté marketing, artificiel, voire induisant en erreur, mais peut-être est-ce le rôle du du marketing et de la publicité. Mais n'est-ce pas aussi une sorte d'exercice finalement poétique et qui prouve l'attrait et le goût des gens pour les résonances, même personnelles ou sociales, de telle ou telle couleur?
Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a du ludique, il y a du poétique, il y a de l'onirique là-dessous, et je l'accepte bien volontiers. Moi-même, je m'en amuse, je me livre à ce type d'exercice avec mes étudiants, tenter de nommer des nuances de couleurs innommables, au fond. Non, ce n'est pas ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve, ce sont, d'une part, les confiscations de telle ou telle couleur ou nuance de couleur par telle ou telle firme. Là, je trouve que c'est vraiment scandaleux. Et puis la confusion constante que font nos contemporains entre couleurs et nuances. Je vois des publicités qui affirment que tel ou tel ordinateur peut gérer X millions de couleurs, bientôt 100 fois plus dans des ordinateurs à venir. Qu'est-ce que ça peut être que des dizaines de millions de couleurs? L'œil ne peut pas les distinguer, bien sûr, au-delà de 300, 350 nuances, même si les sujets très performants, tout se confond. Et puis, la langue ne peut évidemment pas les nommer. Donc, qu'est-ce que ça peut être qu'une couleur que la langue ne peut pas nommer et que l'œil ne peut pas voir? Pose des problèmes. En outre, il ne s'agit vraiment pas de couleurs, il s'agit de nuances. Pour les sciences humaines, il n'y a que 11 couleurs, en Occident en tout cas. 6 couleurs de base, blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu. 5 couleurs que j'appelle par commodité du deuxième rang, pour montrer qu'elles ne sont pas tout à fait au niveau des 6 premières. Le gris, l'orangé, le rose, le brun et le violet. Et puis après, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des nuances de nuances. Mais pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, le vert bouteille, ce n'est pas une couleur, c'est une nuance de vert. Le bleu des mers du Sud, c'est une nuance assez incertaine, mais une déclinaison du bleu. Ça n'est pas une couleur. Et dans l'emploi des mots, de plus en plus souvent aujourd'hui, on confond couleur et nuance. Et ça, oui, c'est vrai, ça me met en colère.
En tout cas, en parcourant votre journal chromatique, on est d'une part parfaitement émerveillé, mais on en ressort un petit peu honteux aussi. Moi, j'en suis ressorti en me disant, mais en fait, bon sang, depuis des années, moi, je vois le monde en noir et blanc, en fait. Et même sans les nuances de gris, je le vois plus plat, moins coloré que vous.
Oui, déjà, moi j'accepte l'idée que le noir et le blanc sont des couleurs à part entière. Pour les sciences humaines, le noir et le blanc sont des vraies couleurs. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun physicien ni aucun chimiste qui refuserait au noir et au blanc le statut de vraies couleurs. Et dans les pratiques sociales de la couleur, ce sont des pôles très forts, même de tous les systèmes de la couleur. En outre, ça n'est pas tant pour moi que le monde est de plus en plus gris, même si ça peut être en effet la couleur emblématique, presque héraldique des sociétés occidentales contemporaines, le gris, mais c'est une belle couleur pour moi. Mais c'est plutôt que les couleurs, pour nous, sont beaucoup plus faciles d'accès que pour nos arrière-grands-parents, par exemple. Par là même, il y a une perte d'attirance, une perte d'intérêt. Les jeunes enfants à l'école maternelle n'apprennent plus à mélanger deux couleurs pour en faire une troisième. Dans ma génération, on faisait ça très très tôt. Sinon, à l'école maternelle, en tout cas à l'école primaire. Aujourd'hui, les jeunes créateurs ont, pour une somme misérable, une boîte de 50 feutres, une boîte de peinture avec 15 godets. On ne mélange plus les couleurs, on ne crée plus de couleurs. Et les jeunes plasticiens, souvent, utilisent les couleurs telles quelles au sortir du tube. Pour mon œil, c'est assez choquant, presque agressif. La couleur, ça doit se travailler en peinture artistique. En tout cas, c'est mon opinion. Mais entre la couleur et le noir et blanc, il y a des mouvements de balancier. Aujourd'hui, j'observe que chez les grands photographes, par exemple, il y a eu un moment où il y a eu un retour artistique au noir et blanc. Il a été même tellement important, ce retour artistique, que le balancier est reparti dans l'autre sens et faire des grandes photos en couleur est redevenu un must. À quand la prochaine étape, hein? C'est un peu toujours comme ça. Ce qui caractérise notre monde contemporain, c'est que ces phénomènes de mode vont de plus en plus vite, gênant l'observateur. En tout cas, l'historien doit laisser la place au sociologue, qui est habitué au rythme rapide, alors que l'historien travaille plutôt sur des cycles longs. Bien sûr. Mais est-ce que notre monde est plus en noir et blanc que les mondes précédents? Je suis médiéviste, je sais bien qu'au Moyen-Âge, la couleur, c'est quelque chose qui coûte cher. Donc, il y a des lieux et des moments pour la couleur. Le lieu, c'est l'Église, sauf chez les cisterciens et quelques autres ordres qui moralisent la couleur et qui voient dans la couleur une matière et pas une lumière. Mais en règle générale, l'Église est le temple de la couleur. Et puis... pour ce qui est de l'étoffe, il y a des vêtements de cérémonie et puis des vêtements de vie quotidienne, même pour la haute aristocratie. On ne porte pas constamment des couleurs vives, riches, précieuses. Ça reste exceptionnel.
Oui, ce que je veux dire, quand les termes sont impropres, hein, malheureusement, dès qu'il s'agit de couleurs, ça devient très compliqué. Quand je disais « je vois le monde en noir et blanc », c'est que le sens et dont vous investissez les couleurs, la poésie, l'enchantement, le réenchantement des couleurs qui est perceptible dans votre œuvre, particulièrement dans celle-ci, puisque on est au-delà de l'œuvre d'érudit dans le ressenti, m'a donné honte d'avoir aussi peu, non pas d'emportement, mais d'enchantement moi-même, lorsque je me promène dans la rue. Et je sens qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer, que je vais prêter davantage attention aux couleurs et les réenchanter, et ainsi peut-être réenchanter le monde. Je pense que lorsque vous vous promenez dans la rue, vous voyez tout un tas de choses que le commun des mortels ne voit pas.
Oui, peut-être que cela m'est propre. La couleur est présente partout. Elle concerne tout le monde, tous les domaines des activités humaines, plus tout ce que la nature nous apporte. Donc moi qui m'intéresse aux couleurs, évidemment, je ne m'ennuie jamais. Où que je sois, j'ai des observations à faire. On pourrait même penser que l'absence de couleur, l'incolore, si tant est que ça existe, ça fait partie du système de la couleur. Ça n'est pas le degré zéro, c'est le degré 1 de la couleur. Donc j'invite tout le monde à être plus attentif, en effet, aux couleurs qui nous entourent. Ce sera un plaisir, ce sera une joie, ce sera ludique. Et ça invite aussi à partager un bien commun. Je reviens à cette idée qui m'est chère. La couleur concerne tout le monde, appartient à tout le monde. Et c'est assez agréable d'en parler. Je vais quelquefois parler à des jeunes enfants à l'école primaire, 8, 9, 10 ans. Ils ont des choses à m'apprendre. J'aime bien écouter ce qu'ils ont à dire sur les couleurs. Ils peuvent être très bavards sur les couleurs qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas, les idées qu'ils associent à telle ou telle couleur. C'est plus difficile avec les adolescents. Mais les jeunes enfants adorent les couleurs et aiment beaucoup parler des couleurs.
Tout est plus difficile avec les adolescents, je crois, non?
Oui, je crois. Ça a longtemps été comme ça. Ça s'est intensifié avec ma génération. Peut-être qu'un jour, ça va un peu se relâcher.
Ça nous amène une ultime question, parce qu'il est souvent question. Votre ouvrage concerne donc les six dernières années. Vous êtes donc attentif aux changements. Mais à un moment, dites-vous, il y a les changements, mais aussi, ce dont on ne parle pas assez, les permanences. Est-ce que finalement, les couleurs, c'est pas aussi quelque chose qui nous permet de nous réinscrire dans une longue durée, et peut-être, comme c'est probablement l'un des problèmes majeurs de nos sociétés, du fait de l'accélération dont vous parliez, sentiment d'être une sorte de particule sans passé, sans avenir, détachée de tout héritage et de toute perspective, et vivant sans cesse dans l'instant. Est-ce que les couleurs ne peuvent pas jouer un rôle pour nous réintégrer à ce monde ?
Oui, je suis historien, donc je suis attentif aux périodes de mutation, mais aussi aux périodes plus immobiles. L'histoire est faite de rythmes qui alternent de cette façon-là. C'est le travail de l'historien d'étudier tout cela. Je suis spécialiste du passé. Quelquefois, on me demande de dire l'avenir. Quelles seront les couleurs de demain? Y aura-t-il de nouvelles couleurs? Et est-ce que le monde pourra se réenchanter par la couleur? On y a cru dans les années 70. Hein. Il y avait vraiment l'idée qu'il fallait égayer la vie et que des couleurs vives, que certaines couleurs associées pourraient rendre la vie plus gaie, d'où la vogue de l'oranger, censé égayer et stimuler tout le monde, la carte orange, les trains corail, les cuisines orangées ou orange vert pomme et marron, les vêtements plus polychromes, plus débridés. Je suis de ceux qui, aujourd'hui, quand ils regardent en arrière, se disent « Mais comment est-ce qu'on a pu faire ça ?» À l'heure d'un bilan sur le XXe siècle, dans ses rapports avec la couleur, les années 70, c'est vraiment une parenthèse par rapport aux pratiques antérieures et postérieures. Et je ne sais pas si c'est une parenthèse très, très heureuse. On le voit d'ailleurs quand, aujourd'hui encore, des architectes ou des urbanistes cherchent à redonner vie à un quartier particulièrement triste, défavorisé, un peu lépreux, en posant de grands aplats de couleurs vives, pensant que ça va égayer le quartier. C'est amusant 3 jours, et puis au bout de 3 semaines, les habitants commencent à faire circuler des pétitions pour qu'on leur remette du blanc et du gris, parce que trop de couleurs en aplats vifs, comme ça, ça finit par être insupportable. Donc je reviens à mon idée, la couleur est une chose trop belle, trop sainte presque, pour que l'on en abuse. En tout cas, il y a aussi des choses qui ne changent pas. Par exemple, là, tous les documents photographiques le montrent, pour le commun des mortels, nous sommes toujours habillés depuis au moins 50 ans dans les mêmes couleurs, mis à part cette parenthèse des années 70. Ça change un peu, mais pas tellement. Les formes changent plus que les couleurs pour ce qui concerne le vêtement. Et puis surtout, un document qui me passionne, ce sont les enquêtes d'opinion conduites dans la rue où on demande aux hommes et aux femmes « Quelle est votre couleur préférée ?» On a de telles enquêtes depuis la fin du 19e siècle. On en a énormément à cause du marketing, de la publicité. Les plus anciennes sont allemandes, vers 1880. Eh bien, depuis 1880, les résultats sont toujours les mêmes, malgré les changements de société, malgré les nouvelles lumières, malgré les nouvelles matières. Les mêmes résultats selon les décennies, selon les différents pays d'Europe occidentale, les mêmes résultats pour les hommes et pour les femmes. Le bleu écrase tout, la moitié de la population a le bleu pour couleur préférée, devant le vert, très loin derrière, entre 15 et 18%, puis le rouge, puis le noir, puis le blanc, puis le jaune, qui termine la marche des couleurs de base. Donc moi, spécialiste du passé, je peux vous dire l'avenir. Dans 25 ans, la couleur préférée des Européens, même des Occidentaux, plus largement, restera la couleur bleue.
Merci beaucoup. La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut peut-être pas essayer de réenchanter le monde en le bariolant, mais peut-être simplement en s'intéressant davantage aux couleurs que nous avons déjà sous les yeux, qui sont, comme vous l'avez dit, si précieuses et saintes, qu'il faut les respecter en user avec modération et en y portant un regard bienveillant, mais également érudit. C'est ce que permet votre ouvrage, Michel Pastoureau, une couleur. Votre ouvrage et les précédents, bien sûr, mais j'invite nos lecteurs à épouser le vôtre de regard en se plongeant dans votre ouvrage. Une couleur ne vient jamais seule. Journal chromatique 2012-2016, c'est publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci de votre accueil.